Youssef Hindi, bonjour.
Bonjour Rachida Chachi, merci pour l'invitation.
Bah, c'est moi qui te remercie de nous faire l'honneur à nouveau d'être là parmi nous. Je pense que c'est le troisième entretien.
Au moins.
Comme on dit, jamais 203.
C'est ça. Sur
Et là,
TV, ouais, sur EDC, je parle de la troisième fois.
la
On a
troisième fois,
déjà
tout à
eu
fait.
des débats, etc.
Avec
ensemble.
l'angle, notamment la chaîne
Voilà.
Angle.
Ouais.
Et donc, on t'a invité à l'occasion de la sortie de ton nouveau livre que j'ai là entre les mains et que tu as la gentillesse de m'envoyer, intitulé La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État.
Ouais.
Et je me souviens, la dernière fois, on t'avait invité, la vidéo est sur la chaîne ODC TV, on avait abordé un article que tu avais publié sur Strategica,
Un dossier, ouais.
tout à fait un dossier qui était l'un des points de départ de ce livre et qui abordait notamment cette guerre-là menée contre l'Europe, invisible, qui ne fait pas de mort, comme évoqué par François Mitterrand vers la fin de sa vie, un courage assez tardif. Et la question de la nouvelle lutte des classes, forme de lutte transversale, un peu de l'économie réelle contre l'économie fictive, du concret contre le frivole, et qui, contrairement à la lutte des classes qui a caractérisé le début et le milieu du XXe siècle, aujourd'hui n'oppose pas le prolétariat aux détenteurs du capital, mais oppose un camp qui regroupe les travailleurs avec les petits moyens entrepreneurs de l'économie réelle, contre de l'autre côté le parasitisme de la finance fictive. Donc on l'avait abordé en détail, mais dans le livre, tu vas encore plus loin et tu intègres ces éléments-là dans une cohérence plus globale, jusqu'à adopter une approche prospective vers la fin qu'on abordera. Et tu as eu l'occasion de faire plusieurs entretiens avec différentes chaînes. Le but n'est pas de refaire la même chose aujourd'hui. Donc j'aimerais m'attarder sur la dimension conceptuelle du livre, qui pour moi est le point de départ, c'est le sous-jacent de tout le livre. Si on ne maîtrise pas les concepts que tu évoques au début, au tout début, on ne comprend que partiellement tout ce que tu développes après. Et j'aimerais commencer par la première question. Alors tu identifies ou mets en avant deux types ou deux archétypes de domination dans l'histoire, en commençant par l'Antiquité. Donc il y a l'archétype de l'hégémon, c'est un peu Athènes, il y a l'archétype de l'empire, c'est un peu Rome. Peux-tu nous détailler un peu les différences fondamentales entre les deux?
D'accord. C'est pas un exercice si facile que ça parce que ça nous plonge dans une histoire lointaine et dans un type d'imperium de commandement qui est complexe puisque pour ce qui est d'Athènes, bon, l'hégémon n'a pas duré très longtemps, l'hégémon athénien, on va y revenir, mais Rome, il y a eu plusieurs stades, il y a eu la royauté, le rejet de la royauté, la république, l'empire. Donc, je vais simplement faire une introduction succincte à ce que j'appelle l'empire et ce que j'appelle l'hégémon dans le livre. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des États-Unis, on parle indistinctement d'empire et d'hégémon. Ça revient, et souvent les gens ne font pas la distinction, même les géopolitologues ne font pas la distinction entre les deux. Rome est l'archétype pour moi de l'empire, c'est-à-dire une puissance terrestre, une puissance qui s'étend d'abord sur la Terre, principalement, qui a la capacité à terme d'intégrer les populations conquises, ça part de Rome, puis l'Italie, etc. C'est un très très long développement, en fait, l'Empire, jusqu'à intégrer des populations qui sont totalement étrangères à la péninsule italienne pour en faire des citoyens.
Comme au Moyen-Orient,
Voilà.
en Asie mineure. À
Et
l'époque de
ceux qui
Trajan, d'ailleurs, la citoyenneté romaine a été généralisée à tous les gens qui habitent l'Empire romain.
Voilà, et ça donne jusqu'à, j'aime souvent cet exemple-là, puisque ça nous touche, je pense, tous les deux, c'est l'exemple de Septime Sévère, qui était un numide
Tout à fait.
né en Libye, qui a eu donc la citoyenneté romaine, qui est devenu un général romain et qui est devenu un empereur de Rome. C'est pour dire, voilà.
D'ailleurs, pour
Et
l'anecdote, il y a également un philosophe romain, un philosophe, un empereur romain arabe, Philippe l'Arabe. J'invite les gens à chercher sur Google Philippe l'Arabe. J'ai même une pièce de monnaie datant de Philippe
Voilà.
l'Arabe,
Alors,
Arabicus.
je donne cet exemple-là, et tu fais bien de donner cet exemple, parce que ça met en exergue le contraste
Tout
radical
à fait.
avec Athènes. Parce que là, on va du côté de l'hégémon. Athènes est un hégémon et qui a, comment dire, qui exerce un pouvoir géopolitique qui est diamétralement opposé à celui de Rome. C'est-à-dire que c'est un pouvoir qui est endogame, parce qu'on ne peut pas devenir, par exemple, athénien. C'est-à-dire qu'il y
Il
a
y a
la
la pureté de
conception
la race, la
de la
généalogie.
race. Et en fait, quand on est dans cette conception-là endogame, c'est qu'on voit de la différence partout, même là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que si vous êtes grec mais pas athénien, vous ne pouvez pas devenir un citoyen d'Athènes. la conséquence pour ce qui est du rapport aux autres cités dominées, là on en vient à Athènes qui devient un hégémon, c'est-à-dire une puissance géopolitique, c'est que elle met en place ce que j'appelle un ségrégationnisme dans les relations internationales, un ségrégationnisme géopolitique, une distinction nette entre les Athéniens et tous ceux qui sont en dessous, y compris les autres Grecs.
Compris les alliés, entre guillemets, parce que
Y
tu parles
compris.
également de la Ligue de Délos,
Voilà. Et
et
en
tu fais
fait,
le parallèle avec l'OTAN.
voilà, j'ai été très frappé en étudiant dans le détail l'histoire de l'hégémon athénien, qui est bref, hein, comme je l'ai dit. L'Empire romain s'est constitué sur des siècles et a duré, perduré durant des siècles.
Durant 1000 ans
Mais
à peu près.
voilà, mais l'hégémon athénien, c'est même pas un siècle, entre 70 et 80 ans. Donc, il crée la Ligue de Délos, et au départ, la Ligue de Délos a été fondée pour faire face aux Perses, tout comme l'OTAN a été fondée pour faire face aux Soviétiques. Donc, au départ, ça ressemblait à une organisation plus ou moins égalitaire. Délos, c'est le nom de l'île sur laquelle ils se réunissaient, la Ligue se réunissait tous les ans, et c'était là où ils entreposaient les trésors, trésors qui étaient partagés, disons, dans l'effort de guerre. La menace perse disparaît, mais la Ligue de Délos perdure.
Perfect.
Et ce qui est cocasse, c'est que Athènes décide de qui entre dans la ligue, quelle cité entre dans la ligue, et interdit d'en sortir. C'est un peu comme les États-Unis, même s'ils y mettent les formes. Et ça devient un système, bien sûr, de domination et d'écrasement, voire de spoliation. On ne va pas rentrer ici dans tous les détails. L'autre trait fondamental de l'hégémon, contrairement à Rome, c'est que c'est une puissance thalassocratique, une puissance maritime. D'ailleurs, quand il va y avoir la guerre du Péloponnèse, il va opposer la coalition autour de Sparte à Athènes. Les Spartiates vont réussir à battre les Athéniens, notamment comment dire, en construisant des navires et en apprenant à se battre sur mer, ce qui n'était pas
Tout à fait, en
ce qui n'allait
sabotant
pas
les
trop.
navires athéniens, tout à fait.
Voilà. Donc, alors que Rome, puissance terrestre, puissance relativement égalitaire, mais attention, quand je dis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cruauté, qu'il n'y a pas de
Oui.
dureté. Disons que l'Empire romain est aussi dur que le pater familias romain, qui avait quasiment droit de vie et de mort sur ses enfants. Donc je mets des références de
C'est
spécialistes.
bien que tu dises quasiment, parce qu'effectivement, les historiens romains qui sont dans la subtilité disent qu'il ne faut pas le lire littéralement, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas tuer physiquement leurs enfants, mais qu'ils pouvaient les tuer politiquement. Parce que pour que mon fils, par exemple, qui voudrait intégrer le Sénat, s'il n'a pas mon accord en tant que père, il ne peut pas se présenter aux
Tout à
élections.
fait.
Donc
Même
je peux le
quand on
tuer
est.
socialement, économiquement et politiquement.
Exactement. Et le père pouvait, même quand son fils était adulte et qu'il avait un pouvoir politique, sénateur, il pouvait donc monter, se mettre à ses côtés et mettre la main sur l'épaule de son fils, adulte, pour lui faire comprendre, tu
Ouais,
redescends.
calme-toi, t'es ouais.
Mais en cas de crime, si les enfants commettaient un crime, le père romain pouvait jouer le rôle de juge.
Oui.
Donc il pouvait pas tuer, c'était pas arbitraire, mais c'était en cas de crime par exemple. Chez les Romains, puissance terrestre,
Et
puis pendant
paternel, paternaliste.
et égalitaire, pyramidal, chez les Athéniens, endogamie extrême, ce qui ne permet pas en fait de constituer un empire au sens strict du terme, au sens romain, ce qui fait que l'hégémon athénien s'est construit vite, mais est tombé aussi vite. Ça a été une
Parce que
bascule.
l'hégémonie athénienne prend la forme d'une tyrannie et que sa domination est subie parce qu'elle ne prend pas
Exactement.
la forme d'une intégration. Alors les Romains, comme tu l'as évoqué, c'est pas des bisounours, c'est-à-dire ils sont cruels dans leur conquête, mais une fois conquis, les survivants en fait sont intégrés dans l'empire et jouissent des mêmes droits puisqu'ils sont intégrés à la citoyenneté romaine. Et donc c'est plus durable et ça demande moins d'énergie pour
Voilà.
entretenir
Et
l'empire que pour
donc,
entretenir une hégémonie.
tout à fait. Et donc, les États-Unis, je les mets dans la catégorie de l'hégémon et non pas de l'empire. C'est pour ça que moi, je ne parle plus, depuis que j'ai commencé les travaux sur ce livre, je ne parle plus d'empire américain. Je parle d'hégémon états-unien. Et je pense qu'il est extrêmement important, même pour les autres analystes, d'intégrer cette donnée-là parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses.
Mais Alors, tu établis un double parallèle, on va y revenir, entre la Ligue de Délos et l'OTAN et entre la Ligue autour de Sparte et les BRICS. On reviendra sur les subtilités de ce parallèle. Mais avant, peut-on dire que, au fond, les États-Unis contiennent en eux autant la dimension hégémone que la dimension empire? Je m'explique. Les États-Unis étendent leur domination par des rapports de force commerciaux, etc. Tu le développes dans le livre, par la voie maritime, etc. Mais ils tentent, depuis le début, enfin depuis le début, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, d'exporter leur mode de vie, qui peut prendre la forme d'une intégration à l'American way of life. Donc à tous les niveaux, culinaire, vestimentaire, comportemental, etc. Donc peut-on dire que ces dimensions d'exportation de leur paradigme à l'échelle mondiale, par le cinéma, par l'art, par la culture, reflète un peu la dimension impériale qui est latente, pas explicite comme la dimension hégémone, d'autant plus qu'avant, lorsqu'il y avait la doctrine Monroe, les États-Unis étaient dans un isolationnisme et étaient une puissance continentale qui tentait d'étendre leur domination à l'échelle des Amériques, en refermant définitivement, comme tu l'expliques d'ailleurs, l'Atlantique, dont le parallèle peut être établi avec la mer Rouge dans la Bible, après la traversée des Hébreux. Et donc peut-être que le fait d'avoir quitté le statut d'empire pour aller vers l'hégémon n'empêche pas qu'il garde encore des réminiscences de ces dimensions impériales qui continuent d'agir.
Alors, très bonne question. Ça va me permettre de préciser certaines choses. J'explique dans le livre qu'effectivement, il y a deux archétypes, Rome, Athènes, et les États-Unis correspondent à l'archétype athénien, donc de l'hégémon. Mais j'explique ensuite, lors du développement, que c'est un autre type d'hégémonie que met en place les États-Unis, parce qu'on n'est pas à la même époque, c'est pas la même situation géographique, c'est pas la même histoire, et c'est pas la même volonté. Chez les États-Unis, il y a une dimension de domination universelle et messianique. Or, contrôler quelques cités en Méditerranée, dans l'Attique, c'est autre chose qu'essayer de dominer le monde. Ça implique une autre stratégie. Disons que les Athéniens ne faisaient pas dans la dentelle. C'était du hard power. Voilà. Alors que les États-Unis, pour dominer le monde, ont mis en place un système de soft power et des relais. Je parle notamment des institutions internationales. Ça leur permet d'être présents tout en étant absents. Et cette absence avait été relevée très justement par Schmitt, qui avait expliqué que les États-Unis étaient absents de la Société des Nations, mais ils étaient présents par la présence des 18 États américains qui étaient contrôlés par les États-Unis. Et en fait, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont poursuivi dans cette lancée, dans cette stratégie, en utilisant des relais. C'est très intelligent, c'est très subtil, surtout ça a fonctionné jusqu'à une période récente. Le soft power, c'est aussi la domination culturelle. Et en fait, la domination culturelle dont tu as parlé ne correspond pas à une volonté d'intégrer comme les Romains. C'est une volonté de dominer, c'est une des facettes de la domination hégémonique. Il y a la domination économique, il y a la domination militaire, il y a la domination culturelle, il y a aussi la domination par les mœurs. On est à la phase finale. Là, on est bientôt au mariage avec les Romains.
Période de liquidation.
Voilà, donc là, on est en phase terminale. Mais il n'en demeure pas moins que les États-Unis, dans les relations interétatiques qu'ils mènent, ils restent un hégémon, en considérant les autres, bien sûr, comme leur inférieur. Et plus que cela, parce qu'il y a la dimension hégémonique, mais en plus de ça, il y a la dimension messianique qui est un aggravateur de la dimension hégémonique, c'est-à-dire qu'on considère les autres comme des sous-hommes. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés en Amérique, les pères pèlerins et leurs descendants, s'ils avaient été un empire, ils auraient intégré les populations autochtones.
Amérindienne et oui. Tout à fait, bon.
On sait tout ce qui. Alors que les Français, quand ils arrivent en Amérique, très souvent, ils se marient
Tout à fait, notamment au niveau du Québec, l'actuel Québec et
Voilà, parce que il y a là, ça renvoie aux travaux de Alan McFarlane et de son élève, son disciple plutôt, Emmanuel Todd. C'est la question des structures familiales,
Égalitaire,
égalitaires,
inégalitaire.
inégalitaires, etc. Voilà.
Tout à
Mais
fait.
tu fais bien de me poser cette question parce que ça me permet de préciser des détails qui sont importants. Détails.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le concept d'hégémon et d'hégémonie doit toujours être contextualisé. de ne pas opérer
Exactement.
des projections aveugles en pensant que c'est la même chose et que ça dépend de beaucoup de variables et beaucoup de facteurs. Mais l'essence de l'hégémonie est la même, c'est-à-dire le fait d'établir une hiérarchie discriminante et ségrégationniste entre l'hégémon et les dominions ou les vassaux qui lui sont soumis.
Et j'insiste sur la dimension messianique. C'est pour ça que
Ça, c'est
j'appelle
la
les
nouveauté
ouais,
américaine. Tout à fait.
j'appelle les États-Unis, je ne l'ai pas écrit dans le livre, j'y ai pensé après, c'est hégémon vétérotestamentaire. Voilà, c'est les deux.
D'accord. Bah, c'est un peu à l'image d'Israël dans la Bible,
Oui, bien sûr.
de
Oui, bien sûr.
domination, de liquidation, de hiérarchisation,
Oui,
etc. C'est une forme de
bien sûr.
projection à une échelle hypertrophiée au
Bien
niveau des
sûr,
États-Unis.
que les auditeurs ne s'inquiètent pas, j'ai bien précisé la paternité, la filiation.
D'accord.
Dans le livre.
Alors, il y a un autre aspect que j'aimerais aborder, toujours dans la question de l'hégémon, c'est que, si j'ai bien compris, pour les auditeurs, c'est qu'au fait, le modèle de l'hégémonie ou de l'empire, ce n'est pas une question de choix, mais c'est la résultante du fondement de la domination. C'est-à-dire que quand une cité ou un État fonde graduellement sa puissance sur la terre et le contrôle de la terre, sur un ordre terrestre, et tu l'évoques en faisant référence à Carl Schmitt, de fait, son pouvoir politique ne peut que se structurer sous la forme de l'empire. Par contre, dans le cas d'Athènes, avec une ouverture maritime sur la Méditerranée, la possibilité de faire des colonies, de conquérir des îles, en fondant sa domination sur le commerce maritime, de fait, le pouvoir politique à Athènes ne pouvait que prendre une forme hégémonique plutôt qu'une forme impériale. Donc, c'est juste pour évoquer que ce n'est pas une question de choix, mais c'est une question
Oui,
de résultante.
y a une double dimension. Il y a la dimension élémentaire, voilà, le rapport à l'élément, et la structure familiale. C'est-à-dire que ça, cet aspect, je ne l'ai pas approfondi dans le livre parce que je le laisse pour un autre livre. Si Dieu me prête vie, on verra. Mais il y a une structure familiale qui prédispose à l'immersion dans la mer. Par exemple, les Britanniques, les Anglais, ont une structure familiale qui les prédisposait à devenir leur position géographique, bien sûr,
C'est
mais aussi
évident.
leur structure familiale. Et si on prend par exemple les Allemands, une structure familiale inégalitaire,
Et autoritaire.
voilà, inégalitaire, eh bien, disons que c'est à partir de l'époque luthérienne que leur structure familiale évolue vers la famille souche inégalitaire, eh bien, à partir de là, il devient difficile pour eux d'établir un empire pérenne. Le Saint-Empire romain germanique était pérenne parce que c'était jusqu'à l'époque luthérienne, jusqu'à la Renaissance, une structure familiale relativement égalitaire. Mais à partir du moment où on
Bascule
bascule
vers un
vers
schéma.
l'inégalitarisme, on devient un hégémon terrestre, mais ça ne fonctionne pas non plus.
Et puis
Voyez?
ajoutant à cela la dimension autoritaire qui retient les gens, c'est-à-dire qui empêche cette rupture générationnelle que permet la famille nucléaire, qui est indifférente à l'égalité dans le cas anglais. C'est-à-dire qui autonomise les gens de manière précoce, dès l'âge de puberté, ils sont éjectés en dehors de la ferme. Donc ça donne une logique d'aventurier, de gens voilà, pour qui
Oui.
l'autonomie et la liberté devient la norme fondamentale. Et c'est favorable à la domination maritime qui ne connaît pas de
Et
frontières, qui ne.
exactement parce que en plus de cela, en plus de cet individualisme, il y a comment dire la mobilité.
Tout à
C'est-à-dire que
fait.
dès la fin du Moyen Âge, Alan MacFarlane explique que déjà il y a plus de terres qui sont vendues qu'héritées, ce qui est quand même surprenant, et une mobilité des enfants dès qu'ils atteignent la liberté, loin de
Tout à
leur,
fait.
de leur foyer, qui prédispose justement à la mobilité maritime. Et vraiment, il y a des dimensions que j'ai pas abordées parce que c'est
Bah,
pas
ça
le
mériterait
sujet
peut-être
du
un
livre.
autre livre, plus
Oui,
anthropologique.
oui.
Juxtaposer le nouveau livre avec l'ancien livre et apporter des
Exactement,
éclairages.
exactement. Il y aura une dimension peut-être dans mon prochain livre si je peux le faire. On verra en fonction de l'actualité. Mais une dimension anthropologique, une dimension élémentaire et aussi eschatologique. Mais bon.
Après, il y a effectivement la dimension, pas uniquement géographique, mais également technique, qui peut activer certaines prédispositions ou non.
Oui.
D'ailleurs, Carl Schmitt l'évoque par rapport à l'Angleterre, qui pendant tout le Moyen Âge était une puissance terrestre. Leur symbole était le lion, qui est un animal terrestre.
Voilà.
Mais le progrès technique a rendu possible une projection maritime
Tout
et
à
qui a
fait.
activé ces caractéristiques qui étaient latentes avant.
Exactement.
Alors, le deuxième élément, le calvinisme. Alors, tu parles de prédisposition, partant de la famille nucléaire, de beaucoup de choses, mais il y a également le calvinisme qui va jouer un rôle prépondérant dans l'hégémonie qui va émerger à partir du monde anglais tout d'abord, puis du monde américain. Alors, quel rôle a joué le calvinisme dans tout cela?
Alors, pour essayer d'être schématique, le calvinisme, donc le père du calvinisme, Calvin, qui est un Français, qui développe une religion, qui fait une réforme à la suite de la réforme luthérienne, qui ne va pas s'implanter en France, donc qui va momentanément s'implanter à Genève, puisqu'il va, il va établir son fief à Genève. Mais pourquoi est-ce que ça ne se répand pas en France et pourquoi ça se répand en Angleterre, surtout? Parce que le calvinisme est une idéologie ou religion qui est une religion de la bourgeoisie. C'est-à-dire que il y a une, comment dire, pour le dire brutalement, une influence du judaïsme, Bible hébraïque et Talmud, sur Calvin. Par exemple, il va revenir sur l'interdiction de l'usure. Alors que même Luther, bon, c'était pas il n'avait pas l'érudition de Calvin, mais toutefois, il avait une vision de l'économie et de l'usure qui était plus ou moins saine. Alors que chez Calvin, il y a donc l'autorisation de l'usure jusqu'à un certain degré. Et surtout, ce qui nous intéresse pour l'Angleterre et les États-Unis, c'est qu'il va aussi récupérer la dimension élective
Tout à fait.
du judaïsme.
La
C'est-à-dire que
prédestination est...
la prédestination, c'est aussi lié à la dimension d'élection. Mais ce que fait Calvin, c'est que il va faire de l'élection, il va prendre l'élection qui est dans la Bible hébraïque, dans le judaïsme, raciale, c'est un peuple élu, et il va la transposer, prendre la même structure et transposer à à la bourgeoisie, qui va devenir une sorte de classe élue. Donc là, on est quand même bien avant Marx. Si Marx est le prophète du prolétariat, eh bien Calvin, comme l'explique Richard Honeythorne, qui est un grand historien de l'économie britannique, eh bien il dira, lui, que Calvin est le prophète de la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'il va constituer un appareil idéologique et une vision qui va accompagner, structurer la bourgeoisie. Et quand l'Angleterre va opérer sa rupture avec l'Europe, sa rupture avec Rome, à partir de Thomas Cromwell, dans les années 1530, après la Réforme, dans la seconde moitié du XVIe siècle, le calvinisme va être adopté, notamment à l'époque de la reine Élisabeth Ière, qui est, comme le rapporte Werner Sombart, entourée de juifs, son médecin est juif, elle est fascinée par le judaïsme, pas seulement elle, hein, mais les élites anglaises à cette époque, et ils vont récupérer l'appareil politico-religieux du judaïsme et en faire une sorte d'outil, d'arme au service de leur impérialisme, de leur hégémonisme.
Bah
Donc,
déjà, ça leur procure une légitimité qu'ils n'avaient pas. D'ailleurs, cette rupture, le passage de l'aristocratie à la bourgeoisie, on le voit même chez Molière, avec le bourgeois gentilhomme, cette crise de légitimité. Et puis, cette idée dans le
tout à fait.
calvinisme, c'est de dire qu'au fait, le marqueur de l'élection divine, c'est votre statut
Riche.
économique. C'est que voilà, si vous êtes riche, que vous êtes aimé de Dieu, si vous êtes pauvre, bah voilà, tant pis pour vous.
Voilà. Et donc, quand l'Angleterre va opérer cette transformation, va devenir un hégémon maritime, le calvinisme, là, comme l'expliquait d'ailleurs Schmitt dans Père et Mère, le calvinisme va être une sorte de moteur, de propulseur de cet hégémonisme maritime, puisque comme l'expliquait Friedrich Ratzel, la domination de la mer tend vers la domination du commerce, et la domination de l'océan va tendre vers une volonté d'unifier le monde, puisque là, on n'est plus seulement dans une thalassocratie avec l'Angleterre, on est dans une océanocratie, je dirais. Voilà. La domination des océans, la domination de tout le commerce mondial et donc la domination du monde. Donc le calvinisme va être ce christianisme judaïsé extrêmement utile pour l'hégémon anglais, puis pour l'hégémon états-unien.
D'accord. Alors, l'apparition du calvinisme donne naturellement lieu par la suite à la contre-réforme catholique, puis aux guerres de religion, qui vont aboutir au traité de Westphalie, avec la naissance de la forme, entre guillemets, moderne de l'État, qui aujourd'hui est en voie de disparition, comme tu le développes dans ton livre. Alors, cet État a connu une genèse et plusieurs étapes de maturation. Et puis, à un moment, tu évoques, plus loin dans le livre, le coup d'État néoconservateur en 2000 avec la victoire de George Bush Jr., qui peut être relié à un coup d'État qu'il a préparé, qu'il a précédé. C'est le coup d'État, même s'il est démocratique formellement, des néolibéraux, avec Thatcher et avec Reagan, qui, en liquidant le politique au nom de la gouvernance, ont préparé le terrain au niveau gestionnaire à un coup d'État effectif qui est celui de George Bush Jr. Alors, comment. Pas George Bush n'étant que le paravent, bien entendu.
C'est ça.
Alors, comment peux-tu situer ce coup d'État néoconservateur par rapport à la phase terminale de la liquidation de l'État qui va naître du traité de Westphalie? Je sais que je prends énormément de raccourcis.
Alors, cela, c'est très, très vaste. On va être encore une fois schématique pour que nos auditeurs nous suivent. D'abord, l'État, enfin, le traité de Westphalie, c'est la conséquence de la naissance de l'État moderne, l'État souverain, donc qui s'émancipe de la tutelle de l'Église. S'il n'y a plus d'Église, l'Église existe, mais c'est-à-dire qu'on est dans une période qui va précéder la Révolution française, avec un État qui s'est émancipé de l'Église, c'est-à-dire que le pape n'a plus d'autorité directe sur, par exemple, le royaume de France. L'autorité du pape sur Louis XIV
Oui, il
était
était. Ouais.
très réduite. Je schématise.
Bah, déjà, ça a
Donc,
commencé bien avant avec Philippe le Bel, avec c'est venu
je parle de Philippe.
graduellement,
Oui,
tout à
je
fait.
parle de Philippe le Bel,
Ouais.
parce que, et même on peut même remonter
C'était bien avant. Ouais.
au-delà.
Bah, Frédéric Barberousse, à l'époque, Saint-Empire romain germanique.
Voilà, donc je parle dans le
Il y a
livre,
toujours eu un bras de fer, parce que l'idée initiale, c'était de séparer le spirituel du
et
temporel. Or,
en
la
fait,
papauté ne s'est jamais gênée pour étendre.
exactement, mais
Oui.
je pense pouvoir expliquer, enfin, je pense que j'explique de façon assez précise dans le livre que ça commence avec l'institutionnalisation de l'Église par Constantin. Donc, l'Église, dès le départ, est soumise au pouvoir temporel. Ça va, bref. Revenons-en à l'État moderne. Donc, l'État moderne s'émancipe de l'Église qui disait le bien et le mal, et le vrai et le faux, et qui arbitrait dans les relations internationales, ce qui est extrêmement important. Donc, comment pallier à cette émancipation? Eh bien, on va dire que les États sont souverains et qu'ils sont égaux, et qu'il n'y a plus de guerre juste, et qu'il n'y a plus que des ennemis justes qui sont, pas forcément dans leur bon droit, mais qui ont une légitimité. Donc, les relations, à partir des traités de Westphalie entre les États européens, vont être relativement égalitaires. L'égalité dans une guerre n'existe pas vraiment. C'est le plus fort qui gagne. Mais bref. Et donc, on est sorti de cette période-là. Puis, je vais faire un bond en avant avec la domination du monde anglo-américain, mondial, qui va mettre à bas l'esprit westphalien, puisque les États-Unis, précisément eux, vont se considérer d'une certaine façon non seulement comme une nation messianique, et même le nom dit c'est une nation démiurgique, une nation divine, mais aussi dans les relations internationales prendre la place de l'Église. D'une certaine façon, je le dis de façon schématique aussi dans le livre, c'est que la nouvelle Église, c'est l'ONU. Or l'ONU, le siège de l'ONU est à New York.
D'ailleurs,
Et
effectivement, ils peuvent excommunier comme ils peuvent réintégrer.
exactement. Et donc, quand George W. Bush dit nous allons mener une croisade, je mène une croisade contre l'Irak, en fait, il prend la place du pape. Nous, on s'est dit, c'est juste au départ, on s'est dit, c'est juste
Un
un
élément de
imbécile.
langage.
Oui, un imbécile, un évangélique qui délire. Non, non, en fait, ce qu'il dit, c'est très profond quand il dit nous. Parce que c'était le pape qui rendait légale une croisade, même qui faisait lancer les croisades. Or, là, les États-Unis sont jugés partis. C'est normal, puisqu'ils sont la nation messianique qui remplace, ils prennent la place de Dieu, ils prennent la place du Messie, ils prennent la place de l'Église. Donc, ils disent le vrai et le faux, ils disent le bien et le mal. Donc, eux, bien sûr, c'est le bien, hein, quand t'as tout
Bien
le
entendu,
pouvoir, c'est toi le
on a
bien.
toujours le bon rôle.
Les autres, c'est l'axe du mal. Donc, on revient, en fait,
Dimension morale
à une dimension
dans
morale
la définition de l'ennemi.
de l'époque médiévale, sauf qu'à l'époque, il y avait une autorité reconnue qui disait ce qui était le bien ou le mal, le vrai et le faux. Et on va attaquer l'axe du mal. Et puisque les autres États, puisque l'État, c'est aussi le peuple, si un chef d'État est le diable, l'État est le diable, et le peuple aussi est le diable.
Tout à
Ce
fait.
qui justifie, le bombardement des populations civiles, les
On a vu
embargos.
comment ils préparent toujours toute guerre par une diabolisation du peuple en lui-même. On l'a vu avec les Serbes, comment ils ont été diabolisés. Voilà.
Et ce qui est fou, ce que tu viens de dire, justement, me fait penser à ça. Ce qui est fou, c'est que un certain nombre de peuples occidentaux, notamment, surtout les Anglo-Américains, ont intégré cela. La diabolisation de l'ennemi, pas seulement du dirigeant, mais de l'État ennemi et de la
Du
population.
peuple,
C'est-à-dire
hein.
que on en est arrivé à un tel degré de dégénérescence morale, cause de la disparition du religieux, que ces guerres sont devenues normales, d'une certaine façon, du point de
Mais
vue
c'est d'ailleurs ce
occidental.
face à quoi mettait en garde Carl Schmitt, parce que quand il mettait en avant que le critère de discrimination de l'ami et l'ennemi ne doit être que politique, c'est pour nous préserver d'un recours à un fondement moral pour désigner l'ami et l'ennemi. Parce que quand le fondement est moral, le mal est mal tout le temps, toujours. Et donc le seul moyen d'évacuer ou de dépasser cette contradiction, c'est de liquider définitivement l'ennemi. Il n'y a pas possibilité de se réconcilier, de faire un traité de paix, parce qu'il est le mal, l'ennemi. Et donc, au fait, quelque part, à travers les États-Unis, on est en train de réactiver, mais de manière totalement dévoyée, car il n'y a plus d'église, le fait d'invoquer la dimension entre guillemets morale pour désigner un ennemi, et donc ça devient une guerre totale, et plus une
C'est ça,
guerre
une guerre
par rapport à laquelle
d'extermination.
tout à fait d'extermination totale, et donc ça justifie les embargos qui affament des millions de gens, qui créent 100 000, qui donnent la mort à 100 000 enfants irakiens. On a vu comment Thatcher, pas Thatcher, pardon, Madeleine Albright trouvait cela justifié de tuer 100 000 enfants irakiens, donc on est dans
500
un
000.
délire total. 500 000 enfants
500 000.
irakiens, et puis davantage si on compte la dernière guerre de 2003 en Irak. Donc,
Ce qui nous amène à ta question.
oui,
Je
non,
ne vais
c'est
pas
bien pour ne pas
oublier.
perdre le fil, oui.
Voilà, c'est ce qui nous amène à la question du coup d'État néoconservateur. Donc, j'explique qu'il
Mais
est
juste,
effectivement.
si tu permets,
Ah
avant
oui,
d'y aller,
vas-y.
juste un petit
Vas-y.
récapitulatif pour les
Oui, vas-y.
auditeurs. Donc, si j'ai bien compris, l'État westphalien ou post-westphalien n'a pu perdurer que tant que le centre de gravité géopolitique était terrestre. Dès que le basculement s'est fait au niveau atlantique, avec l'émergence des Pays-Bas, puis de l'Angleterre, puis par la suite des États-Unis, l'État westphalien, un peu le Léviathan, n'avait plus le soubassement terrestre, puisqu'il est devenu maritime. Et donc, de fait, l'État westphalien était voué à la liquidation.
Tout à
Peut-on
fait.
le dire?
Oui, tu as remarqué. Je n'ai pas fait cette remarque dans le livre, mais ta déduction, elle est. Oui, je suis tout à
Parfait.
fait d'accord avec. C'est une
D'accord.
interprétation qui tient parfaitement la route.
Donc on y va. Le coup
Ouais.
d'État
Donc, le coup
néoconservateur.
d'État. Donc l'État, les États modernes, l'État souverain s'est effondré, c'est l'ultime phase. Ils se sont effondrés avec l'entrée en scène des États-Unis lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Qui est devenu, alors, ce que j'explique dans le livre, que là, j'ai pas le temps de développer, c'est que l'État souverain est un État divin, puisqu'il s'accapare la souveraineté qui appartenait jusqu'à la fondation de l'État moderne à Dieu. C'est
Tu
Dieu qui
l'évoques
se
dans le
souverain.
livre, tu l'évoques
Ah
en
oui, bien
détail.
sûr, je
Mmh.
l'explique
Tout à fait.
en détail, mais c'est juste pour le
Tout à
développement,
fait.
pour que les auditeurs comprennent.
Mmh.
Donc, l'État est devenu divin et donc, il s'est accaparé, les pouvoirs de Dieu, quelles sont les implications? Ça veut dire que ce n'est plus la loi divine qui est la loi suprême, mais c'est la loi de l'État. C'est l'État, les dirigeants, ceux qui sont à la tête de l'État, qui décident ce qu'est la norme ultime. Donc on peut abattre la loi divine, la loi naturelle, et la remplacer par une autre constitution.
Qui est
Donc
ultime et en même temps relative, car mouvante, changeante en fonction des intérêts de l'État.
oui, et en fonction de la dégénérescence des dirigeants de cet État.
À fait.
Parce qu'on en arrive à un point où donc l'avortement est dans la Constitution, peut-être bientôt le changement de sexe est
Oui,
pas
la
dans la
GPA,
Constitution.
enfin, tout le
Voilà.
package.
Voilà. Donc à partir de là, la boîte de Pandore a été ouverte. Mais les États-Unis qui deviennent la puissance dominante de l'Occident, comme l'explique Schmitt, l'Europe est intégrée au grand espace américain. Ce que cela implique, c'est que ces différents États démiurges, comme je les appelle, ces états divins, vont se retrouver encastrés dans un système hiérarchique comme dans un panthéon. Donc vous allez avoir une série d'états divins avec au-dessus d'eux un état dieu, un état roi des dieux, qui est les États-Unis. Et donc, C'est le paradoxe actuel, c'est-à-dire qu'on est par exemple en France dans un État totalitaire qui contrôle tous les aspects de notre vie individuelle et collective, mais paradoxalement qui est faible. Un État totalitaire qui est faible puisque les institutions internationales fondées par les États-Unis, contrôlées par les États-Unis, ont confisqué aux États européens, notamment la France, leur pouvoir régalien,
Tous les
faire
leviers, tous
contrôler,
les leviers de la
contrôler.
souveraineté.
Exactement, la
Puis faire la guerre et
justice,
la
etc.
paix.
Exactement, donc l'armée, la monnaie, la justice, etc. Et donc aux États-Unis au début des années 2000, là on en vient au coup d'État, aux États-Unis même, il y a, on l'a vu, une sorte de guerre civile froide, notamment on l'a vu apparaître au grand jour avec Donald Trump, mais avant Donald Trump. Un personnage assez intéressant qui a voulu se lancer dans la course présidentielle, qui était un des commandements suprêmes de l'OTAN, qui est Wesley Clark, qui est celui qui a parlé très tôt de coup d'État aux États-Unis. D'abord, il y a eu un coup d'État électoral. Tout le monde sait, y compris les membres de la Cour suprême aux États-Unis, que George W. Bush, en fait, n'était pas censé gagner les élections. Ça,
C'était Al
c'était la
Gore.
première phase. C'était le gars. Donc, il y a eu des irrégularités. Hein. Je ne sais pas moi qui le dis. Hein. Tout est
Oui, tout à
parfaitement
fait. Enfin, ça a
calculé.
été, et
Tu
qu'il y a
vois.
eu un deal pour qu'Al Gore se taise et aille s'occuper du
Voilà.
réchauffement climatique et.
Exactement. Puis, il y a eu une seconde étape au coup d'État, le coup d'État des néoconservateurs avec le 11 septembre. Le 11 septembre 2001 a été un moyen pour les néoconservateurs. Quand on dit néoconservateurs, en fait, ça veut dire les juifs pro-israéliens ou les évangéliques pro-israéliens. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Wesley Clark. Wesley Clark dit que les néoconservateurs ont fait un coup d'État lors du 11 septembre. Donc il y a eu donc le 11 septembre, coup d'État, prise de pouvoir, qui s'est accompagnée par la mise en place d'un état d'exception aux États-Unis, immédiatement, le déclenchement d'une série de guerres dès octobre 2001. Donc, en fait, ils ont, d'une certaine façon, suspendu la loi sur le territoire américain et suspendu le droit international, même si ça faisait déjà un moment qu'ils le violaient. Mais là, ils l'ont violé de façon spectaculaire. Et depuis lors, depuis le début des années 2000, ces néoconservateurs ont investi l'appareil d'État américain et le contrôle jusqu'à nos jours. C'est-à-dire qu'un des membres du New Project for American Century, donc les néoconservateurs qui ont pris le pouvoir en 2001, Kagan, est le mari de Victoria Nuland, qui occupe un poste encore important, je pense, secrétaire, pas secrétaire d'État, secrétaire d'État actuellement, qui était déjà en pointe lors de la révolution
Coloré en
de
Ukraine,
Biden.
ça fait.
Nuland, c'est Needleman. Hein. Needleman, femme de Kagan. Donc, en fait, du début des années 2000 jusqu'à nos jours, les États-Unis vivent sous l'impérium d'une espèce de petite secte néoconservatrice qui a chassé du pouvoir Donald Trump. C'est pour ça que je parle de guerre civile froide aux États-Unis. Et qu'est-ce que ça a eu pour conséquence? Puisque les États-Unis sont au sommet du panthéon des États démiurges en Occident, ce qui s'est passé aux États-Unis s'est étendu à l'Europe. L'état d'exception qui s'est instauré aux États-Unis s'est étendu à l'Europe. La guerre de civilisation, qui est en fait une guerre civile mondiale déclenchée par les États-Unis contre le monde musulman, en déclenchant une petite guerre civile mondiale dans le monde musulman, bah, c'est aussi la conséquence de cela. Et les Européens ont été intégrés à cela. Ça a été le plan Vigipirate en France, etc. Et là, le sommet, ça a été en 2015 sous Hollande avec les lois de renseignement qui sont en fait, c'est le décalque du Patriot Act aux États-Unis. Et là, à l'heure où on parle, le Parlement français, je pense, c'est le Sénat qui a autorisé il y a quelques jours à déclencher, c'est-à-dire à allumer à distance les téléphones portables de n'importe quel citoyen. Donc,
Tout à fait,
micro,
ça je l'ai.
caméra. Et ça, ce n'est possible que grâce à l'état d'exception, qui a été possible grâce aux attentats du 11 septembre, puis les autres attentats, puis le Covid-19, et grâce aux guerres, à la guerre civile mondiale qui a été déclenchée contre le monde musulman. Donc là, c'est un panorama assez large, mais tout ça est lié. Et ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est de mettre en évidence des choses qui n'ont peut-être pas été analysées jusque-là, ou en tout cas qui n'ont pas été mises en relation
En
jusque-là.
relation, tout à fait, dans un schéma de cohérence globale. Et d'ailleurs, on va ouvrir une petite parenthèse pédagogique. Alors, tu évoques l'état d'exception. Beaucoup de gens le comprennent de manière approximative, alors que toi, tu en fais un usage schmittien. Notamment,
Alors,
tu évoques, en faisant référence à la théologie politique de Carl Schmitt, que c'est un concept métaphysique qui a été sécularisé et qui fait que l'État remplace Dieu. Peux-tu détailler que veut dire l'état d'exception dont font usage les oligarchies actuelles?
il y a, en fait, il y a l'état d'exception classique au sens romain. Et il y a l'état d'exception actuel. Les Romains, alors là, c'est Giorgio Agamben qui en fait la généalogie. Alors, Giorgio Agamben est un philosophe qu'il faut lire, d'autant plus qu'il est en difficulté en ce moment, puisqu'il a été en pointe dans la guerre contre le covidisme, et il est traîné dans la boue. Donc, moi, je vous invite à le lire. C'est un anarchiste schmittéen de gauche.
Pas mal, côté syncrétique.
Non,
Okay.
il a fait, Schmitt a fait des petits à droite comme à gauche. Voilà, donc je le note. Et donc, revenons à l'état d'exception. À l'époque de la République, quand il y avait en fait un tumulte à l'intérieur de Rome, qui était parfois lié à une guerre extérieure, il y avait ce qu'on appelait ça s'écrit avec un J, justitium, mais ça se prononce certainement justitium, c'est la suspension de la loi. La suspension de la loi, la disparition de la loi pour faire face à ce tumulte.
Comme à l'époque d'Hannibal, lorsqu'il
Hannibal Lecter.
investit l'Italie, tout à fait.
Voilà. Donc c'était une période de danger
Tout à
extrême.
fait. Et que
Donc il y a cette.
la temporalité n'est pas celle de la délibération et de la démocratie, et qu'il faut être capable de prendre des décisions rapidement, immédiatement.
Exactement. Et ça, c'était avant l'Empire. Donc c'était avant l'Empire et il n'y avait pas, disons, de souverain, entre guillemets, capable de prendre une
Tout
décision
à fait.
rapidement. Voilà. Et il y a, bon, ça c'est une institution romaine, et il y a l'autre institution romaine qui est la dictature. La dictature, c'est le contraire, disons, du justitium, de l'état d'exception, puisque ce n'est pas un vide de droit, mais comme le dit Agamben, c'est un plénum de droit. C'est-à-dire que le Sénat désigne un personnage qui va être le dictateur en période de désordre, qui a un mandat de 6 mois, qui a les pleins pouvoirs, mais qui est encadré par la loi, c'est-à-dire qu'il
Tout à
n'a
fait.
pas le droit, lui, de modifier la loi, la Constitution, mais il a les pleins pouvoirs pour rétablir l'ordre. Voilà. Ça, c'est la
Donc, ça n'avait
distinction.
pas, et d'ailleurs, je l'évoque dans le livre, pendant très longtemps, ça n'avait pas une connotation péjorative,
Pas du
le
tout,
terme dictature.
c'est à
Ça l'est
l'époque
devenu
moderne.
très tardivement.
C'est à l'époque moderne et même contemporaine que la dictature devient quelque chose de
Tout à
péjoratif,
fait.
parce
Parce
que
qu'il y a
pour
la
Romain,
tyrannie et la dictature. Chez les Romains, ce n'est pas du tout la même chose. La
rien à
dictature est
voir.
légitime,
C'est ça.
elle est l'expression d'une volonté, celle du Sénat et du peuple de Rome. La
Voilà.
tyrannie, elle est subie. Elle n'est
Voilà.
pas
Et
limitée dans le temps ni encadrée.
exactement, le tyran, c'est celui qui peut abuser du pouvoir,
Et qui l'usurpe déjà.
c'est celui qui peut l'usurper, qui prend le pouvoir, mais aussi il peut prendre le pouvoir par scélératesse, par fourberie. Voilà, donc le tyran, c'est ça, c'est quelqu'un qui abuse du pouvoir, qui a usurpé le pouvoir, donc c'est un dirigeant illégitime, disons. Alors que le dictateur, lui, il est légitime.
Il a
D'autant plus,
l'autoritas.
voilà, exactement. Donc, ça, c'est important d'avoir ces catégories en tête. Pour en venir à Schmitt, Schmitt, en 1920, dans son livre La dictature, amalgame volontairement ce qu'il appelle la dictature souveraine et l'état d'exception. Mais ça s'explique par le contexte dans lequel vit Schmitt. On est à la fin de la République enfin, on est dans la République de Weimar, dans un état faible. Lui, Schmitt, il voulait construire un état présidentiel fort. Donc il a voilà,
Bricolé.
disons qu'il a bricolé et qu'il n'a pas été tout à fait honnête sur cette question de la dictature et de l'état d'exception, mais il avait un
Un
projet.
projet.
Voilà, il avait un
C'est notre
projet.
projet.
C'est ça. Voilà. Donc, mais il faut le savoir. Donc, lui, il confondait la dictature souveraine et l'état d'exception. Ce qui va donner la fameuse phrase dans le livre important, court, mais important, qui est publié en 1921. Dans ce livre-là, d'ailleurs, il parle plus de dictature souveraine et de dictature de commissaire. Il dit, est souverain celui qui décide de
Deux.
ou dans l'état d'exception.
Les deux.
Voilà. Alors, mais pour Schmitt, alors souvent on a comment dire, on a fait mentir Schmitt parce qu'on a dit que c'était quelqu'un qui voulait instaurer l'état d'exception permanent, etc. Mais
Non,
Schmitt
pas du tout.
dit bien que l'état d'exception pour lui, ça peut paraître contradictoire, mais pour lui, l'état d'exception, c'est la suspension de la Constitution pour mieux la protéger. Donc on la suspend,
Tout à fait.
on suspend le droit, contrairement à Hans Kelsen, qui croit qu'en fait le droit est une sorte d'immanence, une vision gnostique du droit,
Avec la pyramide de Kelsen et...
voilà, avec une sorte de
Voilà.
droit qui nous contrôlerait tout ce qui régirait
Ouais.
l'État. Schmitt dit non, le pouvoir, à un moment donné, il est politique, et il faut que ce soit le dirigeant, le souverain, qui décide. D'où le décisionnisme schmittien.
Schmittien,
Donc, on suspend le loi, on fait face à la situation d'urgence, et c'est le souverain, donc, qui décide de et dans l'état d'exception pour pouvoir restaurer la
ouais.
Constitution. Voilà.
Tout à fait. C'est-à-dire que la norme, enfin l'état fonctionnel normal d'un état, c'est globalement l'ordre juridique. Mais
Exactement.
quand la situation l'exige et qu'il y a une menace existentielle, le politique, et pas la politique ni les politiques, mais le politique, la dimension du politique, doit reprendre le pouvoir afin d'éviter, enfin de combattre le péril qui pèse sur la légitimité du droit. Parce que d'ailleurs, il l'évoque, quand on a un ordre juridique n'est jamais que la formalisation des expériences passées. Et quand le droit est confronté à une situation nouvelle, et que la temporalité de l'urgence n'est pas celle du droit, parce que le droit, c'est délibératif, c'est le vote, c'est beaucoup de choses, et ben, à un certain moment, on est confronté à deux choix. Soit le droit est vu comme étant par les gens comme étant impuissant, c'est-à-dire incapable de répondre à la nouvelle situation, et donc il y a une délégitimation totale de l'ordre juridique, ou bien le politique intervient, parce que lui a la temporalité de l'immédiateté, par le diktat ou l'expression dictature et dictateur, pour repousser le péril et le danger, et repermettre au droit de retrouver son fonctionnement normal. Donc, en fait, l'état d'exception, c'est une exception d'ailleurs, comme l'expression le spécifie, et l'ordre juridique est l'ordre normal quand il n'y a pas de péril. Mais dans ton livre, tu évoques le fait qu'au fait, on est passé de cet état de fait à un état où l'état d'exception est devenu la norme.
Voilà, exactement. En
Alors,
fait,
tu évoques le terrorisme, le Covid, la guerre en Ukraine aujourd'hui, l'écologie, tu l'évoques également, la religion de l'écologisme, tu l'évoques également.
alors, donc, comme on disait, l'état d'exception était, dans la vision schmittienne, historiquement, une façon de rétablir l'ordre, de suspendre le droit pour le préserver. Mais aujourd'hui, l'état d'exception est devenu permanent et il est devenu un mode de gouvernement et qui est devenu le moyen du coup d'État. Ce n'est plus la même chose parce que, par exemple, France, on est dans un État permanent. L'État permanent a duré de 2015 jusqu'au 31 juillet 2022. Mais c'est tout comme, puisque les lois liberticides, donc anticonstitutionnelles, continuent de s'accumuler. J'ai parlé de l'activation du téléphone portable, etc., des arrestations arbitraires, de la dissolution d'associations arbitraires, de façon arbitraire, etc.
Et puis ce
Donc
qui arrive
l'état
avec la monnaie numérique, avec le pass
Donc en fait,
écologique.
l'état d'exception est devenu un mode de gouvernement, il est permanent et il est le moyen d'instaurer un état totalitaire. Donc c'est l'abolition définitive, jusqu'à nouvel ordre, de l'état de droit.
Et de la séparation des pouvoirs, tout à fait.
Donc, et pour ce faire, on a besoin de dangers extérieurs ou intérieurs. Ça a été le terrorisme. Le terrorisme a été un formidable outil pour instaurer l'état d'exception et pour permettre le coup d'État. Et le coup d'État est permanent et progressif et silencieux. Aux États-Unis, on l'a vu avec les néoconservateurs, mais ce que j'observe, je montre par exemple dans le livre, c'est que au sein des institutions de l'Union européenne, dans cette période-là, on a eu un coup d'État continu de la haute finance qui est spectaculaire à la tête des gouvernements, des institutions européennes, de la Banque centrale européenne, de la Commission européenne, des États, à la tête de la France, de l'Italie, etc. Ça a été l'état d'exception, la guerre contre le terrorisme et le covidisme a été une voie royale pour les tyrans. Donc, nous
Notamment
sommes.
pour, on a vu le rôle qu'a joué Goldman Sachs au niveau européen durant la crise des dettes souveraines, comment la BCE est tombée sous la coupe des Américains. On a vu également BlackRock avec toute cette
Exactement.
projection tentaculaire à tous les niveaux, effectivement.
Tout est listé
Tout à fait.
dans j'ai d'ailleurs fait une liste dans le livre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les listes, mais je suis désolé.
On va l'appeler la liste de Hindi. On fera un
Voilà,
film. On fera un film après.
il faut la faire, la liste. Donc, l'état d'exception est devenu la norme, il est devenu permanent, il est un mode de gouvernement et il est surtout le moyen d'instaurer une tyrannie bancaire, une tyrannie de la finance. Donc, le terrorisme a été un moyen, donc l'ennemi qu'on a combattu pour instaurer cette tyrannie, puis le covidisme, puis là le réchauffement climatique, puis la guerre contre la Russie, et ainsi de suite. Ça ne
Jamais
s'arrête
s'arrêter.
jamais. C'est une guerre éternelle. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc l'état d'exception actuel n'a strictement rien à voir avec l'état d'exception au sens classique, au sens romain. Et nous sommes dans une tyrannie, donc il faut vraiment utiliser les bons termes.
Et d'ailleurs, on le voit même chronologiquement, c'est-à-dire qu'ils ne prennent même pas la peine de cacher l'agenda et l'agencement chronologique. Et on a vu, c'est-à-dire la guerre en Syrie, la guerre civile qui a été fomentée naturellement, mais qui part d'une réalité de terrain, on ne va pas entrer dans le détail. Bah, dès qu'elle a pris fin avec l'intervention de la Russie, et bah, on a oublié la parenthèse Daesh et on est passé immédiatement au Covid. Et dès qu'on est sorti au Covid, on est passé immédiatement à l'Ukraine, c'est-à-dire que le tempo est accéléré, ça veut dire que le système est tellement fragile intrinsèquement qu'il ne peut même pas se permettre une pause de 2 ou 3 ans entre crise et crise, c'est-à-dire qu'il est dans une obligation systématique d'inventer immédiatement à chaque fois une nouvelle crise dès que la précédente a perdu de sa teneur et de sa capacité à mobiliser les gens.
Tout à fait. Et tu as utilisé le terme fragile. Effectivement, c'est un pouvoir qui est fragile et qui peut trébucher et s'effondrer très, très facilement, puisque son maintien ne dépend que des catastrophes successives. Et si, comment dire, et surtout en apparaissant comme le garant de l'ordre. Or, au bout d'un moment, le parti de l'ordre, c'est la partie importante de la population qui va se ranger derrière le pouvoir politique qui contrôle l'État, se range derrière lui parce que il est censé incarner l'ordre et surtout rétablir l'ordre. Le jour où le parti de l'ordre comprendra que ce pouvoir n'est pas le garant de l'ordre, mais l'origine du désordre, ça peut basculer et ça peut basculer très vite. Parce que dès lors, il perdra sa légitimité. Or, sans légitimité, un pouvoir illégitime ne dure pas très longtemps.
Tout à fait. D'ailleurs, la violence d'un système politique, qu'il soit national ou hégémonique, est proportionnelle à son manque de légitimité. Au fait, quand un État est légitime, il peut faire l'économie de la violence, parce que les gens adhèrent du fait qu'il est légitime. Donc là, on revient à l'autoritas, à l'impérium romain. Mais aujourd'hui, effectivement, le degré de tyrannie est proportionnel au manque de légitimité, que plus il perdra de légitimité, plus il devra être tyrannique pour entretenir, son hégémonie. Et d'ailleurs, là, on est en train d'épuiser à l'échelle médiatique le narratif anti-russe. On voit que les gens y adhèrent de moins en moins. Il y a eu le premier élan. Il suffit de voir les commentaires sur les vidéos d'LCI et on voit que la majorité des gens n'adhèrent plus à ce narratif-là. Et doit-on s'attendre aujourd'hui à une énième crise, peut-être d'ordre monétaire, financière, pour appliquer définitivement la monnaie numérique?
Oui, et ben justement, tu en parles parce que j'imagine que tu fais référence notamment à la déclaration récente de Jacques Attali, qui a avancé que la prochaine grosse crise financière aura lieu cet été, peut-être au mois d'août. Il n'est pas le seul, hein, parce que ça fait déjà un certain nombre d'années que des économistes prévoient un krach boursier. D'ailleurs, juste avant le Covid, je me souviens
Oui.
que des économistes avaient prévenu en disant 2020 sera l'année
C'est vrai.
du krach boursier. Et c'est comme si le Covid était venu sauver
Tout à fait.
les financiers ou
En tout
relancer
cas, acheter du
l'inflation.
temps, acheter leur
Voilà.
permettre d'acheter du temps. Ouais.
Donc, à un moment donné, ça va arriver et tout est déjà dans les cartons. Par exemple, en Europe, vous ne pouvez pas faire d'achat. Vous allez dans une boutique. Vous ne pouvez rien acheter avec plus de 1 000 euros en espèces. Et alors, les gens ne s'en rendent pas compte parce que le moindre petit achat qu'on fait ici, on le fait en carte bleue. Mais petit à petit, ça va se resserrer. Même à la banque, vous ne pouvez plus déposer, je crois, plus de 1 000 ou plus de 1 500 euros. Les gens sont habitués à payer. On a habitué, notamment durant le Covid, on a habitué les gens à payer non seulement avec leur carte bleue pour tout et n'importe quoi, mais aussi sans contact, sans même faire le code. Donc,
Avec la
c'était
technologie
dans.
NFC, oui.
C'est dans les cartes bleues, enfin c'est dans les cartes bleues, c'est dans les cartons, pardon. C'est dans les cartons. À la prochaine crise, effectivement, tu as raison, ils pourraient instaurer la monnaie numérique. Et là, ce serait un verrouillage, parce qu'à partir du moment où on met en place cette monnaie, comme le dit le cheikh Ayman al-Hussein depuis une vingtaine d'années maintenant, il appelle ça la monnaie d'espionnage. Serait sous le contrôle de l'État lui-même, un féodo à la banque, de façon totale. C'est-à-dire que si vous, il contrôlera vos achats,
On peut geler vos comptes.
on peut limiter le paiement à la pompe à essence, on peut fermer vos comptes
Oui,
bancaires.
mais on peut vous tuer, enfin, vous pouvez mourir de faim. C'est-à-dire,
Oui,
parce que, en fait, la monnaie numérique va de pair avec la disparition du cash. De fait, c'est l'un des
bien sûr.
objectifs. Et donc, si on gèle vos comptes, même une baguette de pain, vous ne pouvez pas l'acheter.
Ouais.
Mettez un mendier, littéralement.
Oui. Et donc, si vous pensez mal, on l'a fait
Voilà.
aux Russes, on les a expropriés,
Oui.
on a exproprié les oligarques russes. Mais ce qui vaut pour les Russes, vaudra aussi pour les Européens.
Ben on
Donc,
l'a vu durant le Covid par rapport aux gens qui étaient réticents au vaccin ou qui ont lutté contre le pass vaccinal, le pass contre pour l'injection expérimentale, pour ne pas dire vaccin.
souvenez-vous, au Canada,
Oui,
Trudeau a fait
les
fermer les comptes
camionneurs.
bancaires des camionneurs.
Oui,
Moi,
tout à
j'ai des
fait.
camarades en France avec qui je travaille, à qui on a fermé les comptes bancaires parce qu'ils s'intéressaient à la vie d'Emmanuel Macron ou autre. Donc,
Ouais.
ça peut aller très vite, ça. Ce qui concerne des cas exceptionnels va bientôt concerner la majorité de la population. Et le jour où les épargnants français, et Dieu sait que les Français épargnent, quand on va ponctionner leur épargne, ça,
Comme à
c'est,
Chypre.
voilà, comme à Chypre. Ça va être intéressant, les réactions vont être intéressantes. Donc, je
Et puis,
pense que le moment de bascule peut arriver le jour où les classes moyennes et les classes moyennes supérieures seront directement touchées. Ça commence déjà. Ça commence déjà, mais ça pourrait. Donc, on est vraiment à la croisée des chemins. C'est-à-dire que soit on accepte la soumission totale, et ça y est, c'est fini, soit le pouvoir va trop loin, trop brusquement. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là, ça le fait trébucher.
Mais c'est le
Et
propre de toute tyrannie que d'aller vers l'hubris et vers le. Voilà, parce qu'elle n'est pas encadrée, elle n'est pas retenue. Et puis il y a un délire qui s'installe au niveau de l'élite, une forme de sentiment
ils
d'impunité totale.
ne s'arrêteront pas de même.
Tout à
À un
fait.
moment donné, et à un moment donné, ils devront rencontrer un obstacle, mais aucun pouvoir n'est éternel. Et ce pouvoir politique, notamment en France, mais en Occident en général, va droit dans le mur. Je pense qu'ils sont condamnés à faillir. Je
Espérons.
pense. C'est mon avis.
Après, il y a différentes manières de faillir. Il y en a, certaines sont plus sanguinaires que d'autres. Et ça m'amène à la dernière question, la célèbre question de Lénine, que faire?
Vaste question. Alors, à la fin du livre, j'ai quand même une longue partie, chapitre de prospective. Tout au long du livre, j'essaie de faire un diagnostic. D'ailleurs, ces années, hein, dans différents ouvrages, j'ai essayé de faire un diagnostic le plus large possible, le plus précis possible, pour proposer à la fin quelques solutions. Et les solutions que je propose vont de pair avec la prospective, en fait. Donc, si je me trompe sur mon exercice de prospective, mes solutions seront bonnes pour la poubelle. Mais bon, pour limiter la marge d'erreur, je reviens au temps long. Je reviens à l'histoire de Rome, les fondamentaux, l'histoire religieuse aussi de l'Europe, l'histoire contemporaine de l'Europe, et ce qu'on observe en fait quand on voit l'histoire de l'Europe, l'histoire de Rome, l'histoire des nations européennes, c'est que les périodes de chaos, les périodes d'effondrement économique, les périodes de désordre sont très souvent suivies de périodes césariste, dictatorial au sens romain, où un pouvoir émerge. Alors le pouvoir émerge et il tombe pas du ciel, hein. C'est pas un Deus ex machina. C'est que les populations européennes, d'autant plus qu'elles sont âgées maintenant, ont besoin d'ordre. Et les personnages comme Napoléon et d'autres sont possibles historiquement parce qu'ils correspondent à un besoin de la population.
Bah là,
Et à un
on
moment
vient à une lecture hégélienne
Exactement. Et
avec
donc là,
l'esprit du temps, tout à fait.
exactement. Je ne suis pas hégélien. Je pense que tu l'as
Alors,
remarqué dans le livre.
c'est pas une insulte.
Oui, mais je suis pas totalement hégélien, mais voilà. Dans le livre,
D'accord.
je cite Hegel parce que Il est un penseur extrêmement important pour comprendre
Tout à fait.
l'époque, mais je ne partage pas
Son
sa
approche
vision.
globale et sa lecture téléologique.
Voilà. Mais effectivement, ce qui risque de se passer, c'est on va s'enfoncer dans le désordre, certainement, dans le chaos, dans une période de trouble, peut-être même dangereuse, mais cette période de trouble, de désordre, va appeler nécessairement un pouvoir fort. Et à la fin du livre, je fais quelques propositions. Là, je laisse au lecteur le découvrir, quelques propositions qui pourraient être utiles pour certains pouvoirs forts qui pourraient émerger. Alors, on est dans le
D'accord.
conditionnel.
Alors maintenant, descendons à un niveau infra-étatique, au niveau individuel. Je sais que ce n'est pas ton sujet de prédilection, mais je sais que tu n'es pas survivaliste, que tu n'es pas pour le fait de construire des bunkers et des trucs. Mais à une échelle individuelle, que peut-on faire durant cette période de trouble? Et même
Alors,
avant, c'est-à-dire à part informer, partager, diffuser, mais déjà pour être en paix avec soi-même, parce qu'effectivement, l'époque est névrotique pour des gens qui ont encore une verticalité des valeurs, elle est dépressive. Comment déjà toi, tu tiens le coup? Comment tu gardes le sourire?
disons que je suis un peu à part parce que j'ai la tête dans le guidon et je suis dans un combat. Donc, d'une certaine façon, je suis préservé psychologiquement parce que le chaos est la matière sur laquelle je travaille, d'une certaine façon. Donc, il y a une sorte de distanciation. Bien sûr, au quotidien, j'y suis confronté. Mais, par exemple, produire des analyses, faire de la prospective et proposer des solutions, c'est une façon de survivre.
C'est une
De
thérapie, ça te
survivre.
nourrit.
Bien sûr. Donc, disons, je survis sans problème. Alhamdoulillah, bon, grâce à Dieu, voilà. Disons que personnellement, j'ai connu des périodes beaucoup plus difficiles. Et mes premiers livres ont été écrits dans des conditions, je dirais pas extrêmes, pas exagérées, mais dans des conditions très très compliquées. Donc, pour moi, le moral,
Mais que
j'ai pas de problème.
dirais-tu, que
Par contre,
dirais-tu aux gens qui nous, voilà, juste
voilà, pour
rapidement,
les gens, pour les
voilà, pour
gens.
les gens, c'est-à-dire parce que même toi, moi, ça peut nous arriver à un certain moment, on a envie de baisser les bras et de lâcher, tu vois. On est humain, il y a un certain moment une pression, un poids, comme par exemple durant le Covid, etc. Que faire dans ces moments-là pour ne pas baisser les bras? À quoi s'accrocher?
Alors, moi, je suis croyant, et ce que je remarque, ce que j'ai remarqué notamment durant le Covid, c'est que les gens qui ont été le plus atteints psychologiquement par le Covid, etc., sont les gens qui ne croient pas. Parce que, ils ne comprennent pas fondamentalement ce qui se passe, fondamentalement les causes et vers quoi on tend. Alors que lorsqu'on est croyant,
Croyant
donc,
intelligemment, bien entendu, parce qu'il y a plein de
croyant,
croyants crétins,
oui,
c'est
bien
un
sûr, bien sûr.
cercle.
Mais moi je baigne dans l'athéisme, donc c'est plus frappant pour moi. Les gens sont désespérés parce que ils n'ont pas d'explication. Or, on ne peut pas, avec des outils rationnels, comprendre la situation actuelle. On est contraint, à un moment donné, d'aller, et c'est pour ça que beaucoup de gens, moi j'ai remarqué durant le Covid, des cadres supérieurs, etc., qui n'étaient pas du tout tournés vers nous, qui lisaient ce type d'ouvrage, etc., ont massivement basculé vers nous parce qu'ils cherchaient des réponses. Et moi, quand j'avais écrit mon précédent livre, Covidisme et messianisme, avant cela, un certain nombre de textes où j'apportais des explications religieuses, anthropologiques, eschatologiques, les gens me disaient, même si ça avait l'air déprimant, ce que j'écrivais sur le sacrifice, etc., ça leur apportait une explication et ça les apaisait psychologiquement. Donc, fondamentalement, il y a cela. Parce que le survivalisme, c'est bien, les gens qui ont les moyens d'aller à la campagne, d'avoir leur potager, etc., allez-y. On n'a pas tous les moyens de le faire. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je suis plus dans la réflexion politique, et je suis pas un anarchiste, ni de gauche ni de droite, parce que c'est là que les anarchistes se rejoignent, de gauche et de droite. Sauf que les anarchistes de gauche veulent abattre l'État parce qu'il est oppressif, et l'anarchiste de droite, en gros, il veut se débarrasser de l'État parce qu'il lui ponctionne trop d'impôts. Ce que je peux comprendre. Mais à un moment donné, le problème est politique et la solution sera politique. Ce n'est pas en désertant que vous allez régler le problème. C'est justement en désertant que vous allez renforcer cet état totalitaire.
Et puis, il
Parce
viendra vous
que il
chercher,
vient
c'est-à-dire
vous chercher,
la
c'est tu
campagne la plus lointaine, elle est
m'as
accessible.
arraché les mots de la bouche. Il viendra vous chercher
Cherchez.
où que vous
Ça
soyez.
y est.
La sécession, donc oui, si vous voulez cacher votre argent, etc., faites ce que vous voulez, acheter des pièces d'or, etc., il n'y a pas de problème.
Après, il faudra
Mais
protéger.
on n'est pas, on vit pas dans des tribus. On est quand même à l'aboutissement de développement historique extrêmement important, la construction étatique, et vous n'allez pas revenir au néolithique. Voilà. Donc je pense qu'il faut rester politique, et pour éviter justement le désespoir individuel, il faut être politique. Donc il faut se rassembler et trouver des solutions collectives.
Et des
Donc
communautés, des...
exactement. Mais à un moment donné, la question religieuse va se poser parce que le collectif, on l'a vu avec les gilets jaunes, le désir de rassemblement est un désir inconscient de transcendance et de restauration du religieux. Sauf que il n'y a plus les clercs qui sont là pour accompagner ce mouvement. Mais cette question-là va se poser parce que on va être confronté à des faux prophètes. Et quand je dis des faux prophètes, c'est pas forcément au sens classique du terme.
D'ailleurs, tu l'évoques dans le livre, on ne va pas entrer dans le détail, les gens n'ont qu'à lire dans le détail. Parce qu'effectivement, tu évoques la question du désir de communion à travers les ronds-points, à travers, etc. Mais il y a une forme d'indigence symbolique, de manque de clergé légitime, bien entendu, pour donner du sens à tout cela. Donc, je retiens deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est d'avoir la foi, alors que vous soyez musulman, catholique ou orthodoxe, la question n'est pas là, mais c'est d'être relié à un référentiel supramondain, un référentiel métaphysique qui donne du sens à ce monde-là, et de ne pas partir d'une tautologie où le monde se donne lui-même son propre sens dans un schéma de subjectivité, de relativisme ou des bricolages de type New Age, etc., qui ne font pas long feu. Le deuxième élément, c'est d'avoir un combat. De mener un combat à sa petite échelle, en partant des contraintes qui sont les vôtres, parce que tout le monde ne peut pas se permettre de mener un combat frontal, mais tous les combats sont légitimes, parce qu'il faut également une logistique, il faut un partage, il faut des passeurs, il faut des intellectuels, il faut un peu tout pour mener un combat de manière efficace, parce que le combat nourrit, donne le sens à notre démarche et nous permet de tenir le coup durant les périodes de crise et les périodes les plus dures, telles qu'on a connues et qu'on connaîtra davantage. Est-ce que j'ai bien résumé?
Parfait, j'aurais pas mieux dit.
SVND, merci infiniment, encore une
Merci à
fois.
toi, merci à toi.
Et bravo pour le livre, et d'ailleurs pour les gens qui aimeraient le commander. Moi, je parle plus particulièrement des gens qui n'habitent pas en France, Maroc, etc., Tunisie, Algérie. Comment ils pourraient le commander? Parce
Alors,
qu'il est auto-édité.
ils peuvent le commander, donc c'est édition stratégique, ils peuvent le commander sur le site de The Book Edition, donc en fait qui est l'imprimeur, et en
D'accord.
le commandant chez l'imprimeur, ils peuvent le recevoir partout dans le monde. Mais aussi, ils peuvent le commander chez les libraires partenaires, pas seulement physique, mais un libraire sur Internet, la librairie de l'Orient.fr, et libre partout dans le monde. Voilà.
D'accord. Alors
Donc,
je rappelle juste pour les Marocains qui regardent, c'est que pour acheter un livre ou le commander à l'international, il faut payer en devises. Or, au Maroc, il y a un contrôle d'échange qui fait que la dotation en devises est limitée. Par contre, vous pouvez, vous, Marocaines et Marocains, passer par des libraires dans une ville au Maroc qui pourraient le commander
Voilà.
pour vous. Eux, ils peuvent le commander pour vous et vous
Exactement.
allez recevoir au bout de maximum 4 semaines, vous l'aurez, vous pouvez récupérer. Voilà, Yousfindi, merci infiniment pour tout votre temps, pour ces
Merci à toi.
éclairages et pour ce livre et pour le
Merci à toi.
combat que tu mènes.
Merci à toi.
Et on se donne rendez-vous prochainement pour le
À très
prochain livre.
bientôt. Avec plaisir. Avec
Là,
plaisir. Voilà. Je vais me reposer un peu.
d'accord. Au prochain dossier, du moins. Disons comme ça.
Voilà.
Voilà.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.